Moi, j'ai des poils. Oups.
Je me disais, mais comment elles font là? Elles sont toujours avec la police.
La norme, c'était pas de poils.
Non, mais je veux pas m'épiler, ça me fait trop mal. Quand je me suis rendu compte que je les rasais plus, j'étais là, oh waouh, je suis une femme nouvelle.
Cette réflexion, elle est née d'un engagement aussi politique.
Laisse tes poils faire leur vie et tu verras, tout se passe bien.
Déjà, qu'est-ce que ça peut vous faire? Et puis pourquoi?
Occupez-vous de vos poils.
À l'adolescence, on apprend beaucoup de choses sur son corps. On apprend ce qu'il faut montrer et ce qu'il faut cacher. Pendant longtemps, j'ai cru que les remarques sur mes poils resteraient cantonnées au vestiaire, à la salle de bain ou aux discussions entre filles. Je ne savais pas encore qu'un jour, ils s'inviteraient dans ma vie sexuelle et qu'ils deviendraient un outil de domination. Au lycée, à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré un homme bien plus âgé que moi. Bon, ça aussi on pourrait en faire un podcast. Mais ce qui importe dans cette histoire, c'est qu'un soir où il m'avait incité à boire de l'alcool et qu'il avait sa main dans ma culotte, il m'a balancé.
Ah, mais t'as plein de poils, t'es dégueu. Tu peux rêver pour que je te touche.
Ces mots furent tellement violents que j'en suis restée sidérée. Finalement, mes poils m'ont sauvée de cet homme, me direz-vous. Et c'est vrai. Aujourd'hui, je les en remercie. Mais moi, à ce moment-là, je me suis surtout dit « merde quoi ». J'ai pensé à me raser les jambes, les aisselles, mais personne ne m'avait prévenu qu'il fallait aussi que je m'épile la chatte. Cette injonction n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une norme sexuelle aujourd'hui très répandue. Selon une enquête de l'IFOP menée en 2021, une large majorité de femmes en France déclarent s'épiler le pubis, avec des taux particulièrement élevés chez les jeunes femmes. Ces données montrent que l'épilation intime est devenue une pratique largement normalisée, souvent associée à la désirabilité féminine, en particulier dans les contextes hétérosexuels. Les recherches ne permettent pas d'en identifier une cause unique, mais soulignent le poids des attentes sociales et sexuelles qui pèsent spécifiquement sur le corps des femmes. Milena Younes-Linard, doctorante en sociologie à Paris 8, travaille sur une thèse qui porte sur le rôle de la dépilation dans la socialisation au genre et à la sexualité. Dans le podcast de France Inter, Marqueur de genre ou critère de beauté, quel sens donner aux poils, elle explique.
On apprend en fait très tôt aux jeunes filles à s'épiler. Il y a des injonctions très fortes qui passent par la famille, mais aussi par les pères, P-A-I-R-S, P-A-I-R-E-S, à l'école, etc. Et c'est une manière de construire des corps féminins qui pourront être censés être les bons corps sur le marché de l'hétérosexualité. C'est-à-dire que c'est une manière de contrôler la sexualité des filles. Et on voit que c'est intéressant parce que on dit toujours que c'est à partir de... je me suis rendu compte de ça à travers les entretiens, que c'est à partir de 13-14 ans qu'on dit aux filles faut que tu commences à t'épiler, mais pas avant. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle de l'entrée dans la sexualité et surtout l'entrée dans l'hétérosexualité pour avoir le bon corps désirable pour les hommes, censé être désirable pour les hommes.
Quand cet homme m'a dit que j'étais dégueulasse, ce n'était donc pas seulement une insulte, mais bien un rappel à l'ordre. En plus du caractère misogyne de ce commentaire, car lui portait bel et bien ses poils et c'était à moi, la fille du couple, de m'épiler le pubis, il pose également la question de la propreté. En utilisant spécifiquement ce mot, il n'associe pas seulement les poils à quelque chose de moche, mais bien à quelque chose de sale. Pourtant, d'un point de vue médical et biologique, l'idée selon laquelle le poil serait intrinsèquement sale ou inutile est fausse. La dermatologue Catherine Gaucher, que j'ai interrogée à ce sujet, me rappelait d'abord que la saleté n'est pas une question de poils, mais d'hygiène globale.
Les poils sont sales quand cette zone est sale. En soi, un poil n'est pas plus sale que la peau. La saleté dépend de ce qui se pose sur la peau ou sur le poil. Donc s'il se pose des choses qui ne sont pas bienvenues, et qui entraîne un développement bactérien, donc de mauvaises odeurs, en effet, on est sale. Et il faut enlever ces choses pour enlever les bactéries qui entraînent les mauvaises odeurs. Entre parenthèses, un chat, c'est jamais très sale, hein. Et pourtant, ça a plein de poils. C'est juste une question d'accumulation et de quantité de bactéries à un endroit donné.
Elle m'expliquait également que si nous avons conservé des poils sur certaines zones spécifiques, ce n'est pas un hasard de l'évolution, mais bien parce qu'ils remplissent un rôle protecteur et sensoriel.
Les poils peuvent nous avertir, exactement comme les animaux. Quand vous avez un courant d'air, vos poils, ils bougent. Quand quelqu'un s'approche de vous, vous le sentez et les poils bougent. On dit que les poils se hérissent comme les animaux. Hein. Donc vos poils vous donnent un avertissement. C'est comme si vous aviez un avertissement de quelques quarts de seconde, quelques fractions de seconde avant que ça vous touche. Vous voyez, exactement comme, par exemple, les cils protègent nos yeux. Ça nous permet de fermer l'œil très vite parce que le cil, il est averti avant la cornée. On a besoin, nous, d'avoir des poils sur certaines zones, probablement pour plusieurs raisons. Je dis probablement parce que rien n'est absolument démontré. Ce sont des hypothèses. Probablement pour, d'une part, protéger de l'agressivité extérieure, mais aussi, et certainement, pour pouvoir faciliter la reconnaissance et les rencontres, parce que les odeurs sont différentes selon que la zone est poilue ou pas. Le microbiome est différent selon qu'on est situé sous les aisselles ou entre les orteils ou sur le pubis. Et c'est pas les mêmes bactéries. Ces bactéries-là vont donner des odeurs différentes parce qu'elles vont sécréter des produits différents. Donc, nous avons probablement gardé des poils sous les aisselles et sur les zones anogénitales parce que les animaux ont l'habitude de se reconnaître entre eux par ces odeurs. C'est probablement pour cela.
Ce que l'on qualifie de saleté ou de négligence relève donc davantage de représentations culturelles que de réalités médicales. Les journalistes Juliette Lanrouilly et Léa Taïeb expliquent dans le chapitre 8 de leur livre Parlons poils, le corps des femmes sous contrôle, que ce cliché provient notamment du courant hygiéniste, né au XIXe siècle, lors duquel les médecins avaient la volonté de développer la santé publique. C'est de là, historiquement, que vient l'amalgame poils égale saleté. Elle raconte qu'au fil des années, l'hygiène s'installe dans les mentalités, les habitudes sanitaires se prennent et les mauvaises odeurs sont traquées au sein des foyers. Elles expliquent que dans les années 80, le sida débarque et le courant hygiéniste passe au niveau supérieur. Jusqu'ici épargné, le poil féminin ou masculin, considéré comme sale et vecteur de maladie, est définitivement stigmatisé. L'argument de la saleté n'est pas toujours celui utilisé pour convaincre les femmes de retirer leurs poils, que ce soit dans le cadre du couple ou de l'entourage proche. Ça peut parfois prendre une forme plus insidieuse, à travers de petites réflexions et de comportements qui sous-entendent qu'il faut avoir une peau glabre pour être une femme désirable, présentable ou respectable. Justine.
Au lycée, j'étais avec quelqu'un de très toxique qui avait 3 ans de plus que moi. On était dans la même classe, donc il avait 18 ans, j'en avais 15. Et vraiment, le cliché du gars mascu qui va venir imposer son regard sur le corps d'une femme. Mais lui ne supportait pas les poils, mais j'allais dire même sur lui. Mais pour autant, il s'épilait pas les jambes. Donc il y avait déjà des grosses incohérences. Et il est venu imposer en fait son regard. Donc c'est aussi avec lui que j'ai découvert ma sexualité, qui était terrible et une chose que je regrette amèrement, mais bon, qu'on ne peut pas effacer. Et en tout cas, j'ai commencé à construire ma vie sexuelle autour du fait qu'il fallait absolument que je sois rasée à blanc constamment. Donc je te fais pas un dessin sur les irritations que ça provoque, surtout que c'était quasiment tout rasoir, notamment les parties intimes. Et qu'on est sur de l'intégrale, quoi, au niveau génital. Donc, c'était extrêmement douloureux. J'avais beaucoup de pousses de poils, forcément. Puis, en plus, c'est des endroits où les poils sont plus drus qu'à d'autres. Donc, si tu repasses avec un rasoir sur quelque chose qui fait quelques millimètres, tu t'éclates, en fait, la peau, tu saignes, enfin, voilà. Et du coup, j'ai commencé avec ça, et c'était encore jamais assez.
Marine.
Une fois, c'était vraiment une réflexion. Et puis, dans le cercle familial, en fait, c'est ça qui est fou. C'est que c'est pas un cercle extérieur, parce que je sais que là, j'aurais su quoi répondre et j'aurais eu les armes. Mais ces réflexions-là sont venues de mon cercle familial, quoi. En mode, ah bah, non, mais si tu t'épiles pas, enfin, t'as vu l'état de tes jambes, je te présente pas mes potes, quoi. Pardon? Mais t'es mon frère, en fait, qu'est-ce que tu racontes, là? Donc, j'ai bien fait comprendre que ce genre de réflexion-là n'avait pas lieu d'être. Il a vite compris, il s'est excusé derrière en mode, mais non, mais en fait, c'était plus de l'automatisme qu'une réalité, quoi. C'était plus pour te chambrer en tant que frangine que, qu'une réelle réflexion.
Léa.
De mémoire, je n'ai jamais reçu de commentaires sur ma pilosité dans des relations intimes, sachant que je n'ai jamais relationné avec une personne sociabilisée homme du tout. Voilà, si on veut avoir les informations. Ce qui fait que je pense que ça m'a un peu protégée aussi peut-être de certains regards, parce qu'en plus, j'ai commencé ma vie intime assez tard, donc j'étais plus vraiment adolescente. Donc en fait, les personnes en face ne l'étaient plus non plus. Et je pense que j'ai toujours relationné avec des personnes qui... avec leur positif et leur négatif, à ce niveau-là, en tout cas, il y avait quand même une déconstruction de base, en fait, sur les poils. Je pense que quand tu es une personne queer, de toute manière, il y a déjà un peu par défaut beaucoup de personnes qui ont fait ce travail-là, parce qu'en fait, quand tu es dans l'acceptation de toi en tant que personne queer, bah, c'est souvent une acceptation plus globale d'aussi son poids, ses poils, ses imperfections, entre grosses guillemets, etc. Du coup, je pense que c'était pas forcément une question. Avec les personnes avec qui je relationnais de notre génération. Les personnes un peu plus âgées, ça n'a jamais été un point de pression vers moi, mais par contre, je voyais bien que sur elles-mêmes, c'était une question et que c'était des personnes qui continuaient de beaucoup s'épiler, etc., et de répondre presque à une vision très hétéro, entre guillemets, de ça.
L'éducation par l'humiliation dont parlait Catherine Monod, anthropologue sociale et chercheuse à l'EHESS, évoquée dans l'épisode précédent, a dans mon cas fait son travail. Après l'événement pour le moins traumatisant concernant les poils de mon pubis, j'ai déclaré la guerre à tous les poils de mon corps, au point que ça en devienne anxiogène. Comme je l'ai expliqué, j'avais déjà commencé à me raser quelques années auparavant. Mais cet épisode a transformé ma pratique en quelque chose d'obsessionnel. Il ne fallait aucune repousse, pas même un petit poil oublié derrière la cheville. Je devais trouver une solution pour enfin ressembler à ces femmes des publicités à la peau glabre et lisse. Toujours terrifiée par l'épilateur électrique, j'ai demandé à ma mère de m'emmener chez l'esthéticienne. La première fois que je me suis retrouvée à moitié nue sur sa table, allongée, les jambes écartées, je me suis sentie gênée et vulnérable, j'imagine comme la majorité des gens qui s'y rendent. Je profitais de ce rendez-vous pour épiler mes jambes, mes aisselles, mais aussi mon pubis, histoire de ne plus être dégueulasse comme on me l'avait fait remarquer. Le temps, la logistique et l'argent que ça demande m'ont vite incitée à changer de technique. C'est là que j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de l'utiliser, cet épilateur électrique qui me faisait si peur. Il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas? Même si c'était douloureux, ça n'était pas aussi terrible que ce que j'avais imaginé. Et c'est vrai qu'il y avait un avantage certain à l'utiliser. Il ne fallait plus se raser tous les 3 jours comme je le faisais depuis des années. Une épilation toutes les 2-3 semaines suffisait. Ça coûtait beaucoup moins cher qu'un passage chez l'esthéticienne, et c'était, en prime, moins gênant que de se retrouver nue face à une inconnue. C'est à cette période-là que je suis devenue une maniaque de la peau glabre. Dès que mes poils se mettaient à repousser, même de quelques millimètres, je m'armais de ma pince à épiler et je les arrachais. C'était mon rituel. Tous les soirs, devant ma série du moment, je retirais mes poils, un à un, et je les déposais sur une feuille de sopalin à mes côtés. C'était mon butin. Plus j'en retirais, plus j'étais satisfaite. Lorsque j'avais des poils incarnés, je les grattais avec la pince jusqu'à parfois me blesser. C'était presque devenu une addiction. Si je ne le faisais pas, j'y pensais. J'appréhendais tellement d'avoir un poil qui dépasse de ma chaussette ou de ma culotte que je ne sautais presque jamais cette étape de ma soirée. Et figurez-vous que j'avais beau procéder à cette activité tous les soirs, il y en avait toujours qui avaient repoussé entre-temps pendant la nuit. C'était une obsession dont je ne parlais à personne, par honte. Justine.
Alors l'obsession des poils et de vouloir absolument traquer ses poils, elle était bien présente, elle l'est encore un peu aujourd'hui. Il y a des moments donnés où mon cerveau il pète les plombs en disant « Enlève-toi les poils !» C'est en ça que tu vois que j'essaye d'arrêter et que je vois bien qu'au fond de ma tête, il y a encore de la déconstruction à faire et encore du job. Mais je me souviens d'avoir découvert à un moment donné sur mon corps c'était quoi une pousse de poils. Et de voir des points noirs, alors qu'en fait c'est juste le bulbe qui se reforme et qui repousse, enfin rien de plus naturel. Mais je me souviens d'un moment sur la terrasse où je vois ça, notamment au niveau du genou, et d'essayer d'appuyer sur la peau pour faire sortir ça, en essayant de crever le bulbe même à la racine avant qu'il arrive. Alors, j'utilisais pas encore d'aiguille et tout, parce que ça c'est venu par la suite. Alors, c'est l'enfer, hein, j'essayais de trouer ma peau pour enlever ça. Mais du coup, voilà, je me souviens à un moment donné d'être vraiment focus sur le moindre poil qui sortait, d'essayer de l'enlever à la pince à épiler. Du coup, c'est là que j'ai appris à m'épiler avec une pince à épiler. Et puis du coup, à partir du moment où j'ai commencé à maîtriser un peu cet outil, bah là, j'ai commencé à le faire au niveau du duvet. Plus actuellement, c'est au niveau du menton. Pas mal de petits poils noirs, et ça, c'est plus mon obsession du moment. Mais il y avait eu cette obsession-là de fallait absolument que je sois lisse tout le temps, et ce sentiment-là est resté pendant très longtemps.
Cette routine que je m'étais créée a duré des années, jusqu'à l'âge de 23 ans. Ça faisait 1 ou 2 ans que je commençais à m'intéresser au féminisme et à ce que ça voulait vraiment dire. Un jour, un homme m'a dit
« Mais toutes les femmes sont féministes, non ?»«
Si seulement. » Moi, avant de m'y intéresser, je disais « Je suis humaniste, pas féministe. » Ce qui ne voulait pas dire grand-chose puisque l'humanisme est un mouvement intellectuel du XVIe siècle qui n'a jamais prôné l'égalité femmes-hommes. Ce que je voulais dire en prononçant cette phrase, c'est que je ne souhaitais pas devenir supérieure aux hommes, mais égale à eux. Comme si le féminisme signifiait la supériorité des femmes sur les hommes. Quand, vers la vingtaine, je me suis inscrite sur Instagram et que j'ai commencé à avoir des comptes féministes sur mon feed, j'ai pu commencer à écouter des arguments et des témoignages qui m'ont permis de faire évoluer ma façon de penser. Je me suis reconnue dans un certain nombre de récits, notamment concernant les violences sexistes et sexuelles que j'avais subies tout au long de ma vie. Car oui, j'en ai malheureusement vécu un paquet. Jessie.
En fait, moi, ça fait plusieurs années que je suis très engagée et militante féministe et que j'écoute beaucoup de choses dans ce sens-là et que du coup, j'ai pu effectivement écouter pas mal de témoignages concernant les poils et les injonctions de toutes sortes envers les femmes. C'est là où ça a commencé un peu à mûrir dans ma tête, mais... On va dire que ça fait depuis 1 an et demi, oui, que j'ai arrêté de me raser sous les bras. Cette réflexion, elle est née d'un engagement aussi politique. Qu'est-ce qui m'a fait passer le cap? C'est que pour moi, en fait, quand on voit mes poils, on peut peut-être comprendre qu'il y a un engagement, pas que c'est politique, en fait. Et donc, le fait de les laisser pousser, c'est militant aussi. C'est dire, mes poils, je les aime bien, ils me protègent, en fait, aussi. On retire quand même quelque chose qui est censé nous protéger d'impuretés qui pourraient se mettre sur notre peau parce que on vit quand même dans des endroits qui sont quand même assez pollués. Et en fait, c'est dire tout ça, que le poil n'est pas notre ennemi, quoi.
Justine.
Le féminisme a eu un grand et a encore toujours un grand impact sur ma manière de réfléchir, un peu comme un fil rouge qui m'aide à avancer quand je sens que j'ai des moments d'égarement, et notamment sur le rapport au corps, que ce soit par des lectures, des partages avec avec des personnes de mon entourage ou enfin que ce soit des amis ou des collègues aussi. Le féminisme m'a aidé sur le fait de lâcher prise et de vouloir en fait simplement faire ce que tu as envie, toi, avec toi-même, avec ton corps.
Marine.
Ça a été un cheminement un peu depuis, je dirais, une dizaine d'années. C'est de l'organisation et c'est relou. Il y a ça et puis il y a aussi, je suis aussi un peu rentrée dans des milieux féministes. Je suis devenue bénévole au planning familial. Mon entourage, ma sœur, des femmes que je côtoie, qui voilà, ont pas forcément le même rapport au poil. Et du coup, de voir d'autres personnes penser différemment, bah, t'amène, toi, à réfléchir sur ta propre façon de penser. Je continue un peu à m'épiler. Des fois, plus du tout. Des fois, si, ça me prend. C'est selon mon envie, mon humeur du moment, on va dire. Mais c'est plus un automatisme, en fait. C'est plus quelque chose où, à chaque fois que je passe sous la douche, je vérifie. Hop, je passe un petit coup de rasoir ou quoi. Et puis, ça va dépendre des parties de mon corps aussi. Il y a des parties de mon corps que j'arrive plus facilement à accepter avec des poils, et d'autres, pas tout à fait.
Léa.
Pour moi, c'est pas forcément le féminisme qui est venu influencer le fait que j'arrête. Par contre, je pense que c'est grâce au féminisme que ça a pu être compris par mon entourage, par les gens dans la rue, ou je ne sais quoi, ou en tout cas accepté comme quelque chose. Je pense que le féministe a vraiment fait un énorme travail, notamment pour les aisselles, en premier lieu, parce que c'est vrai que c'est un peu le cliché, on dit « ouais, les féministes, les poils aux aisselles, etc. » C'est un cliché qui est négatif, dans le sens où c'est utilisé pour dire « ouais, c'est folle, qui sont sales, etc. » Parce que bien sûr, les poils sont sales, on le sait tous, ceci est ironique. Mais l'air de rien, je pense qu'en fait, le féminisme et les féministes et les militantes et militants ont permis en fait, d'un peu amener cette représentation mais ouvrir un petit peu la porte, et ce qui fait que c'est plus facile d'arriver dans un endroit avec des poils. Et genre, honnêtement, je pense que ça fait un moment qu'on m'a pas dit « Ah, c'est marrant, tu t'épiles pas, ou tu t'épiles pas les aisselles, ou ce qui peut se voir très facilement l'été, ou tu t'épiles pas les jambes. » On m'a pas fait de réflexion, même un peu interrogative sur ça, depuis, à part ma mère ou mon père, bon, ça c'est autre chose, depuis... plusieurs années, je pense, alors qu'avant, c'est vrai que c'était plus grand, un peu le « Ah, Berk, mais pourquoi tu t'épiles pas, sale folle, je ne sais quoi ». Bon, encore une fois, je mets de côté tout ce qui est sur Internet, où là, tu peux être sûr que tu peux encore avoir des réflexions. Mais dans la vraie vie, tu vois bien, je trouve que le féministe a fait son travail pour amener des représentations qui fait que toi, quand tu passes le cap, limite la seule personne qui va être la plus difficile à digérer l'information, ça va être toi-même, plus que les autres. Parce que les autres, même s'ils sont perturbés ou perplexes devant le fait que tu portes tes poils, ils ont l'habitude de voir ça, donc ils vont plus forcément voir ça comme une exception, mais comme quelqu'un qui fait partie d'un mouvement.
Une fois que tout le travail de fond a été fait, une fois que je me suis mise à dire fièrement que, oui, j'étais féministe, j'ai commencé à élargir mon champ de réflexion et à m'intéresser à la notion du rapport au corps et à toutes les violences qu'on s'inflige nous-mêmes. Vous l'avez dans le mille, les poils en font partie. Je me suis questionnée sur les raisons pour lesquelles je me rasais et m'épilais depuis des années maintenant. La première étant de plaire aux hommes, de ne pas être dégueulasse, comme le gars que j'ai évoqué précédemment me l'avait dit. J'ai pensé aussi à la douleur que je m'infligeais en m'épilant. J'ai ce qu'on appelle le syndrome Ehlers dans l'os, une malformation du tissu conjonctif qui procure des douleurs chroniques, dans mon cas localisées dans les jambes. J'ai vécu des années en souffrant terriblement. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette question de la pilosité et de la souffrance occasionnée par les diktats de beauté, j'ai décidé que je ne souhaitais plus infliger de douleurs à mes jambes, qui en avaient déjà tant subi. Quand j'utilisais le rasoir, je me coupais et j'avais des poils incarnés. Quand j'utilisais l'épilateur électrique, j'avais mal. Quand c'était à la pince à épiler, je me blessais. Quand j'allais chez l'esthéticienne, j'appréhendais à chaque bande de cire qu'elle allait arracher. Quand je le faisais moi-même, avec des bandes achetées en supermarché, je mettais plusieurs minutes avant de les arracher par crainte de la douleur. Ensuite, j'ai réfléchi à l'argent que j'y mettais. Acheter un épilateur électrique, des rasoirs, de la cire, ou aller chez l'esthéticienne. Et puis je me suis demandé pour qui est-ce que je le faisais. Pour moi ou pour les autres? À cette question, la réponse était plutôt simple. Je me suis rendu compte qu'en hiver, lorsque j'étais célibataire, je n'épilais que les poils visibles entre mes chaussettes et mon pantalon. Et je savais que je n'étais pas la seule à procéder ainsi. 80% des femmes ayant répondu au questionnaire de Juliette Lanruy et Léa Taïeb, les autrices de Parlons Poils, s'épilent plus en été qu'en hiver. Personnellement, à cette période de l'année, je ne retirais mes poils que pour aller chez le médecin. Et je trouve que cette réponse est problématique. Pourquoi devoir les retirer pour aller chez un professionnel de santé? L'injonction selon laquelle il faut avoir une peau glabre pour être présentable, même devant un médecin, est absurde. Ce serait typiquement l'endroit où on pourrait être soi-même. Être poilu comme les hommes, être soi. Alors pourquoi retirer mes poils, si ce n'est pour les autres? Pourquoi m'infliger cette douleur, cette dépense d'argent et de temps? Et puis, il y avait un autre point très important dans toute cette réflexion que je n'ai pas encore abordé. Il s'agit de la réappropriation de son corps à la suite des violences sexuelles. J'ai été abusée par l'homme avec qui j'étais en Espagne, à de nombreuses reprises. Quand on s'est séparés, j'avais la sensation que mon corps ne m'appartenait plus, qu'il me l'avait volé. J'ai senti le besoin de me retrouver, de prendre soin de ce corps qui avait tant souffert. Il aurait pu y avoir plein de façons de m'y prendre. Un tatouage, des piercings, ou encore me mettre au sport pour sculpter mon corps. Moi, j'ai décidé, après de longues réflexions, de laisser ma peau vivre et respirer, d'arrêter de m'épiler ou de me raser, de ne plus m'arracher les poils, de leur rendre leur liberté. Justine.
Le fait de laisser pousser mes poils, ça va de pair avec la réappropriation du corps. J'ai vécu des VSS aussi pendant plusieurs années. Et le fait de laisser le poil reprendre son droit sur mon corps et revenir à un état naturel, et justement, ça permet de sortir du contrôle et sortir du contrôle en fait, qu'on a subi malgré nous sur nos corps. Mais il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour l'intégrer. J'étais pas déjà au stade de poil, j'étais déjà au stade de reprise de poids parce que j'étais en malnutrition. Du coup, le fait de commencer à lâcher prise et à laisser son corps parler de lui-même, ça permet de sortir du contrôle et de sortir de l'endoctrinement. Et du coup, de pair aussi, en prenant de plus en plus de recul, on se rend compte que c'est aussi sortir de l'endoctrinement sociétal et du regard en fait imposé des hommes, puisqu'on sait que c'est notamment un homme qui a créé le rasoir. Hein. C'est pas les femmes qui se sont dit un jour pourquoi pas. C'est ça, on répond à des critères de beauté depuis beaucoup trop d'années. Mais du coup, il m'a fallu vraiment du temps pour le conscientiser, me dire bah là oui, il y a un acte politique où j'ai envie de brandir mes bras et qu'on voit des poils et que je commence en fait à me sentir fière, à dire je me sens femme parce que j'ai des poils.
Jessie.
J'ai pas mis en lien direct une domination, enfin une agression sexuelle que j'aurais pu vivre. Je pense que j'en ai vécu comme une grande majorité de femmes sans forcément l'intellectualiser sur le moment comme tel, et c'est venu bien plus tard. Le fait de faire repousser les poils, c'est de dire en fait maintenant mon corps c'est mon corps, il m'appartient et je veux plus qu'il soit un objet de domination. Et donc je pense que effectivement ça a un lien indirect.
Au début, ça n'a pas été simple d'arrêter de m'épiler. Il m'a fallu du temps pour accepter mon corps naturel. Car oui, après avoir passé 23 années à voir des peaux glabres autour de moi, à voir mon corps nu sans poils, ça n'a pas été simple de les laisser pousser. Il a fallu réapprendre à voir mon corps, à le toucher, et à me préparer aussi à affronter la façon dont les autres allaient le regarder. Lorsque j'ai commencé à laisser pousser mes poils, je vivais en Espagne. Il a vite fait chaud, et mettre des collants n'était plus une option à partir du mois d'avril. Et aimant mettre des shorts et des jupes régulièrement, il a fallu que j'accepte la possibilité de me confronter à des regards choqués. Au début, je guettais, prête à réagir au quart de tour et à me justifier à coups d'arguments féministes. Mais étonnamment, tout s'est très bien passé. Personne ne s'intéressait à mes jambes ou à mes aisselles. Jusqu'au jour où, alors que je me baladais dans la rue, j'ai surpris le regard d'une petite fille de moins de 10 ans se poser sur mes jambes, les yeux ébahis. Je me suis dit qu'elle croisait, peut-être pour la première fois, une image que je n'avais jamais connue. Celle d'une femme poilue se promenant librement dans la rue. Elle allait pouvoir avoir un modèle, même si ça n'avait duré que quelques secondes, de ce qui était possible de faire en étant une femme. Oui, il est possible de se promener en short, avec des poils sur des parties du corps visibles aux yeux de toutes et de tous. Cette expérience m'a permis de me rendre compte que cette décision, en plus de faire du bien à mon portefeuille et à ma peau, était en réalité un acte politique. Un acte qui permettait aussi de sensibiliser mon entourage à la question de la pilosité féminine. Une fois cette prise de conscience faite, il ne me restait plus qu'à travailler sur moi pour apprécier la vue de mes poils. Car, après autant d'années à les retirer et à voir des peaux glabres partout autour de moi, il m'était très difficile de trouver ça joli. J'ai pendant longtemps pensé que c'était moche. Il m'a fallu plusieurs mois, voire plusieurs années pour accepter cette nouvelle vision. Aujourd'hui, après 5 ans à avoir arrêté de m'épiler, je n'arrive toujours pas à trouver ça beau. Mais il y a tout de même une évolution. Je ne trouve plus ça moche. C'est devenu un non-sujet. Ils sont juste là, je les accepte, et ils vivent tranquillement leur vie de poil. C'est une fois rentrée en France, à l'âge de 24 ans, que je me suis confrontée à des remarques péjoratives concernant ma pilosité. Je ne sais pas si c'est une différence culturelle et que les Espagnols sont plus éveillés sur la question que les Françaises et les Français, mais j'ai bien ressenti la différence. En rentrant à Lille, j'ai installé une application de rencontre. J'avais précisé dans ma description que j'étais une femme poilue et que les pilophobes pouvaient s'abstenir. J'avais pressenti les commentaires négatifs que j'allais recevoir et je ne m'étais malheureusement pas trompée. J'ai reçu plusieurs messages, notamment un qui m'a particulièrement marquée.
On dirait Chewbacca, va te raser, t'es dégueu.
Choquée par cette insulte et la récurrence du mot dégueulasse, je me suis trouvée sidérée à la lecture de ce message. Ça n'a pas été la seule remarque que j'ai reçue à mon retour en France. Lorsque je me suis installée à Paris pour mon master, je vivais dans une résidence universitaire dans le quartier de Barbès. Un jour, des hommes qui ne vivaient pas là ont voulu rentrer dans notre immeuble. Quand je suis arrivée devant la porte d'entrée, je leur ai demandé de partir et une dispute a éclaté. Des cris et des insultes se sont mis à fuser dans tous les sens. Dans la colère, des bousculades ont eu lieu. Je me suis défendue en les poussant à mon tour et en levant les bras, mes poils sont apparus, dépassant de mon débardeur.
« Ah mais t'es dégueu, va te raser, sale clodo !»
Ces remarques, parfois anonymes, parfois criées dans la rue, ont longtemps incarné pour moi la violence la plus brute du regard porté sur les femmes poilues. Mais ce regard-là, je ne l'ai pas uniquement rencontré à l'extérieur. Bien que plus doux et beaucoup moins agressif, il existait aussi, plus intime, au cœur même de ma famille. Au début, quand j'ai dit à ma mère que j'avais arrêté de m'épiler, elle m'a répondu
« Mais enfin, bibiche, les poils, c'est pas féminin !»
J'ai tout de même continué à porter mes poils fièrement malgré ses commentaires, et j'ai bien fait, car son regard s'est habitué au fil des années. Aujourd'hui, ça ne la choque plus. C'est devenu normal. Sa vision de la pilosité féminine a évolué. Un jour, elle est même venue me voir pour me dire
« Tu sais pas quoi, bibiche ? Ben aujourd'hui, je suis allée travailler avec mes poils.
» Comme quoi, même après une cinquantaine d'années façonnées par les publicités et les films qui ne montrent que des corps féminins imberbes, il est toujours possible de se déconstruire sur la question. Aujourd'hui, mes poils ne sont plus une revendication permanente. Ils ne sont plus une réponse à la violence, ni un argument à défendre. Ils sont là, simplement, comme mon souffle ou ma peau. Ce choix ne m'a pas rendue invincible. Il ne m'a pas protégée de toutes les insultes, ni de tous les regards. Mais il m'a permis de reprendre ce qui m'appartient. Mon corps. Pendant longtemps, d'autres ont décidé à ma place de ce qui était acceptable, désirable, tolérable. Aujourd'hui, je ne cherche plus à correspondre. Je choisis. Et parfois, choisir, c'est déjà beaucoup. Merci d'avoir écouté Pilophobe s'abstenir. Si cette histoire vous a touché ou vous a parlé, n'hésitez pas à la partager autour de vous ou à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram, NaylaHKM. À bientôt !